Théologie en liberté. En rangeant ma bibliothèque. Radio Alliance Plus, Théologie en liberté avec Michel Jass. Amis des sectes, bonjour. Le trio comique Les Inconnus parodiant une ancienne émission animalière télévisée qui commençait par « Amis des bêtes, bonjour », nous avait fait tellement rire avec ce « Amis des sectes, bonjour » avec Skippy, le grand gourou. Juste à l'époque, ça passait à l'époque où tous les médias étaient unanimement d'accord pour dénoncer la bêtise et la dangerosité des sectes. Attention aux sectes religieuses. Il existe aussi des sectes, mouvements marginaux, minoritaires, des sectes politiques qui nous font beaucoup moins rire, mais qui nous éclairent sur les dérives envisageables ou éclairages sur les possibles de l'intelligence humaine quand elle se fourvoie. Je pense à l'histoire des groupes antisémites d'extrême gauche au XIXe siècle et début du XXe siècle. On avait complètement oublié cette dérive et elle réapparaît malheureusement aujourd'hui. Je pense à certaines alliances contre nature dans telle ou telle élection ou pour ne pas être censuré dans le jeu démocratique français. Ou qui nous éclaire avec, par exemple, l'ancien vote pour Wächter, par exemple, sur certaines possibilités qui n'ont pas été, ou très peu en France, des possibilités qui n'ont pas été expérimentées. Par exemple, ici, une orientation avec Wächter, une orientation écologique du centre ou de droite, comme on le voit dans certains pays en dehors de la France. Radio Alliance Plus, Théologie en liberté. Je voudrais parler des sectes protestantes que l'on indique souvent, le protestantisme serait créateur de sectes ou de dissidences. En introduction, je voudrais dire que pour le protestantisme, la frontière, en réalité, la frontière entre secte et église, vérité et erreur, n'est pas radicale, elle n'est pas nette, elle n'est pas facile, quelquefois. Le christianisme, en entier, en fait, est une secte qui a réussi. Cela aurait pu être, à l'époque de l'Empire romain, le mitraïsme, et puis après le manichéisme, et bien non, ce fut le christianisme. Deux exemples pour relativiser cette frontière entre hérésie et Église. 1. Nous connaissons tous François d'Assise, qui fut une véritable bouffée d'évangile en plein cœur du Moyen-Âge, qui a réévangélisé l'Église du Moyen-Âge par sa spontanéité, sa gentillesse, son amour des pauvres, des malades, des étrangers. Eh bien, peu d'années avant lui, vécut à Lyon Valdès, appelé souvent depuis Pierre Valdès. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est mis à prêcher l'évangile de façon spontanée et itinérante auprès des plus déshérités. Son mouvement s'est répandu dans toute l'Europe, donc il y a eu des Vaudois qui ont descendu la vallée du Rhône jusqu'à Arles, ils ont traversé, il y en a eu à Nîmes au Moyen-Âge, et puis ils sont allés dans la région toulousaine. Bien d'autres sont remontés jusqu'à Dijon, de Lyon à Dijon, jusqu'en Allemagne. Donc ce mouvement s'est répandu très vite, un peu partout dans l'Europe, puisque c'était des itinérants qui prêchaient l'évangile aux pauvres. François d'Assise a été canonisé. Alors lui aussi, le mouvement franciscain s'est très vite répandu dans toute l'Europe. Mais son fondateur, François d'Assise, a été canonisé. Et Valdès, par contre, a été excommunié et pourchassé comme hérétique. Alors que les deux mouvements se sont mélangés. On sait que les franciscains ont rejoint les Vaudois dans certaines régions, les pauvres de Lyon, ou inversement, les pauvres de Lyon, par exemple à Montauban, sont devenus franciscains. Et même au début, au moment de la création des mouvements, François d'Assise aurait, et ça tous les historiens du Moyen-Âge le disent, au début, François d'Assise aurait très certainement copié Valdès, aurait été influencé par ce premier mouvement vaudois. Deuxième exemple, en Italie, à Ferrare, 65 années après François d'Assise et 85 ans après Valdès, un dénommé à Ferrare, Armano Pugilovo, sorte d'influent laïque désigné comme frère Armano, meurt, selon l'expression consacrée à l'époque, en, entre guillemets, odeur de sainteté. Il est enterré dans la cathédrale de Ferrare. Un dossier de canonisation se prépare. Des miracles se seraient produits sur sa tombe. On en fait la liste. Des gens témoignent dans ce sens. Mais une contre-enquête, alors instrumentalisée par l'Inquisition, est lancée par les dominicains et puis le dossier est repris par les franciscains. En 1301, 30 ans donc après sa mort, le corps de frère Armano est exhumé et brûlé. Son tombeau est démoli, ses images et reliques dispersées. En fait, Armano était cathare. Radio Alliance Plus, Théologie en Liberté, nous parlons des sectes. Alors, oui, effectivement, le protestantisme et les pays de tradition protestante, le protestantisme a favorisé, les pays de tradition protestante ont favorisé l'éclosion de beaucoup de dissidences. Les villages, par exemple, dans le Midi, dans les Cévennes ou autour de Nîmes, les villages protestants n'ont en général pas un seul temple, mais souvent deux. Ou un temple et une chapelle, ou trois. Un temple, une chapelle et une salle de réunion pour les différents groupes protestants désunis. Dans ma propre famille, d'un côté, mes ancêtres ont abandonné, du côté maternel, ont abandonné le temple pour la laïcité au XIXe siècle, enfin, l'après-laïcité, le temple maçonnique ou loge maçonnique à côté du café du village, devenu club de la libre-pensée, tout en se croyant toujours très protestant, très très protestant. Et de l'autre côté, mes ancêtres, du côté paternel, ont abandonné le discours des pasteurs de la grande église, enfin l'église traditionnelle, pour des réunions de prières piétistes avec un mouvement qui est présent en Ardèche et aussi dans les Cévennes, le mouvement des darbistes, une des sectes protestantes. Radio Alliance Plus, Théologie en Liberté, au micro Michel Jasse, nous parlons des sectes en général, mais plus particulièrement des sectes protestantes. Dans le monde religieux universel, seuls deux groupes spirituels internationaux ont empêché toute contestation dissidente, donc pas de secte, et ont empêché tout débat théologique qui peut dévier en dehors de leur propre téléguidage. Alors dans le christianisme, c'est le catholicisme, qui insiste beaucoup sur l'unité, l'uniformité, et dans l'islam, c'est le sunnisme. Ailleurs, tout est divers, dans les autres religions, tout est divers, tout est ouvert, mais aussi il y avait beaucoup de dissidences. Vous voyez, par exemple, dans le bouddhisme, il y a plusieurs traditions bouddhiques, et même chez les Tibétains, il y a 4 ou 5 écoles bouddhiques tibétaines, avec des textes différents, des traditions différentes. Vous voyez les groupes minoritaires dans le chiisme ancien. Alors avec certains groupes qui sont même presque sortis de l'islam, mais enfin le chiisme a englobé des courants qui ont dévié. Et voyez dans le protestantisme sa diversité et les sectes qui en sont nées. Je voudrais présenter la question de façon non négative. Oui, effectivement, je parle de sectes pour non pas pour les diaboliser, mais pour revenir à l'étymologie secte, séparée, dissidence. Ce n'est ni bien ni mal en soi. Il faut qu'il y ait des sectes, disait l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Oui, j'en parle de façon sociologique en m'intéressant à ces mouvements minoritaires issu du ou permis par le protestantisme. Il y a eu d'abord des sectes dès le XVIe siècle. C'est d'ailleurs ce que le catholicisme reprocha aux protestants. Malheureux, vous allez réveiller les sectes les plus dangereuses. Luther était traité de manichéen, pour faire peur, et Calvin était traité d'arien. Plusieurs mouvements de la réforme radicale se sont en fait manifestés dès la guerre des paysans. Des anti-trinitaires commençaient à exister chez les protestants. En fait, souvent, ils venaient des juifs d'Espagne qui rejoignaient la réforme, d'abord humaniste, puis réformée ou luthérienne. D'où l'affaire de Michel Servet. Et si Genève ne l'avait pas fait brûler, le calvinisme aurait été déconsidéré. Maintenant, c'est le bûcher de Servet qui salit l'image de Calvin. Il y eut des contestations dans les premiers synodes protestants, des insoumissions. Par exemple, les premiers protestants de la région de Mazamet, donc le long de la montagne noire, du côté océanique, contestent plusieurs décisions des premiers synodes protestants. Et ceux de Revel ne veulent, ils se disent tous protestants, mais ils ne veulent pas la construction de temples. Alors peut-être était-ce par une diffuse mémoire de la première hérésie, l'hérésie cathare très présente dans cette région. Mais c'est un autre sujet. C'est la persécution qui les a ensuite maintenus unis. Donc parce que quand il n'y avait plus la place pour le débat, la discussion, la dissidence, eh bien, tous les protestants se sont réunis. Mais dès que l'Église protestante française émerge un peu et se réorganise, les schismes recommencent à naître, des deux côtés. Alors, par exemple, dans l'Église du désert, à gauche, elle a souffert, cette Église du XVIIIe siècle, clandestine, mais qui commençait à se réorganiser. Elle a souffert à gauche, disons-nous, à gauche des inspirés qui vont susciter la révolte des camisards. Les inspirés rejetaient le pastorat, la théologie, ils prophétisaient, et ils expérimentaient le parler en langue. Certains inspirés à Montpellier, dit les Multipliants, il y a une rue des Multipliants au centre-ville de Montpellier, faisaient des cultes en se déguisant avec des fleurs dans les cheveux, un peu comme les hippies du siècle dernier. Et à droite, à la fin de cette époque, l'époque du désert, le protestantisme classique, liturgique, se trouve doublé de l'intérieur par les premières loges maçonniques. Les rabots Saint-Étienne au cours de Gébelin se trouvaient tout autant à l'aise dans les loges que dans les assemblées du désert. Et même lors des synodes clandestins au XVIIIe siècle, les premières disputes, les premiers schismes apparaissent. On se souvient du schisme Boyer, un prédicant devenu pasteur, qui s'oppose, on a du mal à imaginer cette question, mais cet épisode, qui s'oppose violemment à Antoine Court, grand réorganisateur de l'Église du désert. Et donc l'opposition a été en 1730 et puis en 1740-44. Et les choses vont assez loin, puisque le prédicant Gobert de notre région, qui était proche de Boyer, accuse le pasteur Court, Antoine Court, de vouloir restaurer la papauté. Donc c'était une insulte. Dans la période antérieure, on se souvient aussi que Marie Durand, à la tour de Constance à Aigues-Mortes, était contestée théologiquement par d'autres prisonnières huguenotes, prisonnières comme elle. Radio Alliance Plus, Théologie en Liberté, au micro Michel Jasse, nous parlons des sectes. Je voudrais prendre trois exemples de sectes pour notre explication de la foi et du protestantisme. Une histoire que j'ai connue par ma mère, ma tante et mon oncle, une histoire qui est derrière la création de la mission Timothée à Anduze. Donc avant l'entreprise Timothée, qui s'appelle maintenant Mission Timothée, on est dans les années 50. Hein. Trois pasteurs formés, non à la faculté de théologie, niveau maîtrise, comme les autres pasteurs, mais par des instituts bibliques, niveau BEPC ou quelquefois BAC, mais un peu avec une formation plus légère. Tous ces trois pasteurs exercent dans l'Église réformée évangélique indépendante, qui est proche de l'Église réformée. On les appelle EREI. Aujourd'hui, c'est EPREF, Église protestante réformée évangélique de France. Donc, c'est dans les années 50, ils sont moins diplômés que les autres et pas originaires de la région. Donc, existe une tension. Il s'agit de Willy Marchand, à Générargues, dans les Cévennes. Il s'agit de Jack Mouillon, à Montpellier. Et il s'agit de M. Bernard, je n'ai pas noté son nom, son prénom, M. Bernard à Nîmes. Alors, tous trois vont contester le port de la robe pastorale. Ils vont contester les kermesses, la fête de Noël, les activités pécuniaires, les oreillettes, etc. Tout ce qui est secondaire dans le protestantisme, mais qui prend une place et quelquefois un peu exagérée, ils vont le contester. Et surtout, le baptême des enfants, pour eux, qui serait non biblique. Dans ces années-là, les années 50 puis années 60, ils quittent l'église réformée évangélique ou sont mis dehors. Mais il existe une tension et ils quittent cette église pour créer des petites communautés dissidentes et très vivantes. Car ils sont suivis par leurs anciens paroissiens les plus dynamiques, des conseillers presbytéraux, évangéliques, du Gard et de Montpellier. Les plus engagés, les plus militants, ceux qui prient le plus, ceux qui lisent le plus la Bible, qui se fient le moins aux kermesses, aux musées du désert et traditions non religieuses qui existent dans le protestantisme local. Alors je n'ai pas trop suivi ce qui s'est passé avec M. Bernard à Nîmes, seulement que le petit groupe a donné ce qui s'appelle aujourd'hui Église de la Grâce. Donc ils ont eu, après le pasteur Bernard, ils ont eu le pasteur Déméo. Ils ont créé l'Institut de théologie de Nîmes en 1983, puis qui s'est déplacé à Uchaud en 1990, et puis qui est devenu l'Église de la Grâce, qui existe encore aujourd'hui, ici, dans notre localité. Et c'est vrai qu'en 1996, le groupe a eu des difficultés avec la commission interministérielle de lutte contre les sectes, mais bon, ils s'en sont sortis. À Montpellier, le même groupe dissident qui a quitté l'Église réformée évangélique indépendante, autour de Jacques Mouillon, a donné, un, l'Église évangélique indépendante de la rue Azéma, à Montpellier, église que j'ai connue et comme très dynamique, et puis le successeur de Jacques Mouillon était très sympa. Deux, l'église évangélique de Saint-Gély-du-Fesc, au nord de Montpellier, qui a rejoint l'Union des églises évangéliques libres, donc des dissidents très respectables. Et trois, l'église de la Pompignane, toujours à Montpellier, qui se rapprochait des églises Frères Larges. À Générargues, un troisième groupe dissident dont je parle, Willy Marchand a dirigé jusqu'à sa retraite l'église évangélique de Générargues, qui s'est scindée en deux en 1972 avec la création par Bertin Isart de la mission Timothée. Deuxième exemple, le mouvement pentecôtiste et charismatique. Alors là, il ne s'agit pas d'une évolution locale de Cévenole, Nîmoise ou de Montpellier, mais d'une évolution mondiale. Dans les années avant-guerre, dans les milieux noirs américains d'églises méthodistes, à New York et un peu ailleurs, mais surtout à New York, s'exprime chez eux la spontanéité, le génie du négro spiritual, une spiritualité vraiment très très intéressante, avec beaucoup de chants, de danses, qui renouvelle le monde musical mondial. Le négro spiritual donne le blues, etc. Et puis, avec le registre de l'actualisation, la Bible devient contemporaine. Il faut sortir d'Égypte, être libéré de l'esclavage. Alors, on prie pour les guérisons, on annonce les miracles. Très vite, tout le milieu anglo-saxon est touché par ce qu'on nomme dans le protestantisme réveil, renouveau. Et au Pays de Galles et en France, c'est ce pentecôtisme qui se développe donc chez les Européens. Un peu avant-guerre, mais surtout après-guerre. Deuxième période, après les mouvements de jeunes et les manifestations au milieu du XXe siècle, donc contre les mouvements contre la guerre du Vietnam, la séparation de l'Allemagne en deux pays, le mouvement de 68, un peu partout, une sorte de Woodstock, une sorte de mouvement hippie, reprend l'exubérance pentecôtiste, et existe donc sur le plan religieux, et rejoint même, quelquefois, l'Église catholique romaine. Alors c'est la création des églises charismatiques du côté protestant et la création des groupes de prière, groupes du renouveau et des communautés dans les églises organisées catholiques ou protestantes. Le parler en langue se fait moins extatique et ne demande plus des interprétations, comme chez les pentecôtistes. Il se fait exubérance, chant en langue, quelque chose d'assez merveilleux, dans une mystique très communautaire. Et à Séoul, en Corée du Sud, Yonggi Cho, le pasteur Yonggi Cho, crée la plus grande église évangélique mondiale, avec un lieu de prière continu qui va durer des dizaines et des dizaines d'années. Et son voisin, Moon, est dans cette mouvance. Il avait été pasteur pentecôtiste, il est devenu charismatique, mais il crée sa propre religion hors du christianisme. Aux États-Unis, parmi les pires, se trouve, parce que je suis très sévère avec eux, Benny Hinn, qui en fait se cache et qui a créé une église, une télévision privée, une évangélisation par téléphone, etc. Mais qui se cache depuis 2017 pour des fraudes multiples. Et puis, autre exemple, Paula White, conseillère spirituelle de Trump lors de son premier mandat. Elle s'est entrée en transe. Alors là aussi, elle a sa télé, etc. Elle est habillée à la mode, elle est mignonne et elle voyage en avion. Les télé-évangélistes américains mélangent de plus en plus cet engouement pentecôtiste avec la culture rock. Chorale plus guitare électrique et beaucoup de superficialité. On dirait des émissions télévisées assez réussies. Radio Alliance Plus, théologie en liberté. Troisième période, donc, les dérives. D'abord, avec la bénédiction de Toronto, les charismatiques se font de plus en plus émotionnels. On pleure tous ensemble, c'est formidable. On rit tous ensemble et on lit de moins en moins la Bible, on est de moins en moins sérieux. C'est la création mondiale des méga-churches à Singapour. De Singapour à Los Angeles. J'ai connu des gens qui étaient allés, qui étaient protestants, qui sont allés dans une église à Singapour. Ils sont revenus, mais déçus, choqués. Ils disaient, mais ça n'a rien à voir avec le protestantisme. Et puis de Kiev, avant l'attaque russe en Ukraine, un télé-évangéliste noir américain avait créé des petites sectes un peu partout en Ukraine. Et puis, bon, bien sûr, quand les Russes sont attaqués, ben, le prédicateur de Megachurch est reparti en Amérique. De Kiev à Kinshasa, donc les églises africaines, il y a beaucoup de ces églises charismatiques, très exubérantes. La folie politique de ces méga-churches qui se sont mobilisés pour soutenir la candidature de Trump comme un second messie. Il est miraculé, on a dit. Et s'il a commis des péchés, bon, tant pis, il serait comme Cyrus dans la prophétie biblique, une sorte de pré-messie, pas vraiment religieux, mais qui révolutionne le monde, et Dieu se sert de lui. Après cette folie, dont on ne connaît pas aujourd'hui la fin de l'histoire, revenons à notre région préférée, la région de Nîmes, le Languedoc, Sète et le Vigan, les Cévennes. Une secte protestante minuscule, aujourd'hui disparue, mais que je trouve touchante par le décalage qu'elle a apporté, son originalité, sa fragilité. L'église évangélique Inchiste, créée à Sète par Mademoiselle Inch, Coralie Inch, qui était d'origine danoise par son père. Et puis dans les Cévennes, au Vigan, dans les villages tout autour de Vigan, un peu amasamé, mais sans construction de chapelle. Et enfin, à Nîmes, la chapelle de la rue Adrien, au quai de la Fontaine, qui est une jolie chapelle, bien connue. Chapelle qui n'est plus inchiste aujourd'hui, mais devenue réformée évangélique. Les inchistes reprochaient, donc on est au XIXe siècle, aux protestants classiques, aux réformés, de se contenter d'un demi-christianisme, d'une soumission au péché comme une grâce, tout va très bien, madame la marquise, un laisser-aller de Dieu. D'où l'Église évangélique, un schiste. Cette église crée des œuvres sociales. Il y avait vraiment un engouement, une force dans le témoignage. Les œuvres sociales, là, partout là où elles s'implantent. La maison des châtaigniers au Vigan a été créée par eux. Bain de la mer à la corniche des Cévennes, Lazaret de Sète. Maison de jeunes filles en difficulté au-dessus de la rue Adrien, tout le long du jardin de la Fontaine, en direction de la Tourmagne. Tous les bâtiments, là, c'était les anciens locaux des Bénédictins, la rue des Bénédictins, etc. Tous ces locaux qui sont utilisés aujourd'hui par des étudiants et puis et aussi pour des locations de touristes. Tous ces locaux étaient la maison des jeunes filles de l'œuvre sociale des Inchistes. Cette église a consacré le ministère féminin dès 1840-1850, donc la première église féministe du monde, avec trois curiosités dogmatiques. L'abandon des sacrements. Plus de baptême, plus de Sainte-Cène. L'abandon des sacrements, modernisé selon eux en baptême du Saint-Esprit, mais ne pas ritualisé avec une légère imposition des mains. Deuxième caractéristique, le dualisme. Le mal sur la terre s'explique par, selon eux, l'éternité de Satan. Et troisième caractéristique, la préexistence des âmes, qui n'est pas plus bête en réalité que la croyance en la vie éternelle. Le mouvement inchiste s'est arrêté entre les deux guerres et a donné ses biens, ses constructions, à d'autres églises ou œuvres dans les années 50, puis 70, et puis à la fin, les derniers bâtiments inchistes ont été donnés à d'autres églises ou à des œuvres dans les années 80 à Nîmes. Amis des sectes, bonjour, et bientôt cela va être au revoir. En terminant cette émission, je voudrais relever plusieurs défis autour de ces sectes protestantes. On y voit des excès, oui, des folies, malheureusement. Des manques d'approfondissement théologique, heureusement que dans le protestantisme, il y a aussi la théologie, il y a la réflexion, et puis il y a la méthode protestante libérale dont je suis un des disciples. Alors des excès, des folies, des manques d'approfondissement, une immense générosité d'un côté et dangerosité de l'autre. Alors dangerosité aujourd'hui avec cette actualité qui nous trouble, le trumpisme charismatique aujourd'hui. Et puis, donc, encore aussi de l'authenticité, la culture du négro spirituel, l'authenticité de cette pauvre demoiselle Inch, qui a parcouru l'Europe. Son père était riche, donc elle avait pas mal d'argent pour parcourir l'Europe occidentale pour essayer de créer des églises évangéliques selon sa grille de lecture. Mais elle n'a permis, tous ses voyages n'ont permis que la construction de cinq temples dans notre région, donc à Sète, le Vigan et Nîmes, cinq temples et chapelles. Authenticité, fragilité, comme nos existences. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse.